J'aurais pas de difficulté à respecter ce temps, pour la simple et bonne raison qu'ayant assisté depuis ce matin au débat extrêmement riche et passionnant de cette journée, j'ai plus grand chose à dire. J'avais prévu un certain nombre de dossiers, d'éléments, de vous parler d'un certain nombre de choses qui ont été évoquées très bien à plusieurs reprises au cours de cette journée. Donc je vais me limiter à certaines observations par rapport peut-être, alors je sais pas, en guise de synthèse, c'est pas possible de faire la synthèse de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, mais je vais essayer de porter mes réflexions sur une question de vocabulaire et des problèmes de langue que nous avons eu aujourd'hui et tout au long de cette journée. Alors je m'attendais pas à vous parler de ça maintenant, en fait, c'est pas du tout ce dont j'avais prévu de vous parler. Mais je me suis rendu compte au cours de cette journée qu'à plusieurs reprises, on a parlé de, par exemple, de présomption d'innocence, on parlait de sanctions, on parlait de peine, on utilisait un grand nombre de mots qui sont dans l'esprit des citoyens liés à la question de la sanction pénale et du droit pénal, alors qu'en fait, on parlait j'allais dire sanctions moi aussi, mais de mesures de contrainte qui sont liées au droit administratif. Et je pense qu'autour de ce problème de langage, on a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il faut essayer de creuser un peu cette question. Alors comment je vais faire pour creuser cette question? Je vais vous dire un peu comment je suis tombé dans l'état d'urgence. L'état d'urgence m'a strictement parlé, m'a réveillé. Un samedi matin, c'était une semaine après les attentats du 13 novembre, et m'a réveillé au sens strict parce que c'était une garde à vue et qu'il fallait se rendre au service des renseignements de la préfecture de police de Paris ou assister quelqu'un qui avait fait l'objet d'une garde à vue à la suite d'une perquisition administrative prise au nom de l'état d'urgence. Et on se trouvait à ce moment-là, parce qu'on a eu, on en a parlé rapidement au cours de cette journée, on se trouvait à ce moment-là dans les 12 premiers jours de l'état d'urgence, c'est-à-dire que y compris dans la période, dans la première période de l'état d'urgence, qui, ai-je entendu aujourd'hui, souffrait d'aucune contestation possible, et il ne s'est trouvé personne dans tous les bords du champ politique pour contester cette première période d'état d'urgence. Alors moi je ne suis pas d'accord avec ça, c'est-à-dire que je considère que même dès le 14 novembre, il ne fallait pas déclarer l'état d'urgence, et je pense que l'exemple que je vais vous donner, qui est ma première confrontation avec ce régime, vous montrera peut-être que dès le début, avec l'état d'urgence, l'État et la police, l'administration ont fait purement et simplement n'importe quoi. Donc je débarque à la direction des renseignements de la préfecture de police de Paris pour assister cette personne, et je lui demande, comme cela se fait habituellement entre un avocat et un policier, de me renseigner un peu sur le dossier et sur la manière dont cette personne a été interpellé. Et là, il m'explique perquisition administrative. Alors là, on tombe de haut. C'est-à-dire que moi, je tombe de haut, mais le policier aussi. C'est-à-dire que, en fait, une semaine avant, personne ne savait ce que c'était que l'état d'urgence. C'est-à-dire d'un point de vue purement technique, on a été de très nombreux avocats, enfin Vincent Bringart, William Bourdon, de nombreux magistrats aussi, qui tout d'un coup se sont retrouvés à devoir composer et à devoir travailler avec un texte juridique dont ils ignorent tout et qui n'est évidemment pas enseigné à l'université. C'est-à-dire qu'on tombe de très très loin, on ne sait pas comment faire. Donc on tatillonne, on cherche, on travaille. Et ce que j'ai vu sur cette première mesure de perquisition administrative, et la personne a été assignée à résidence aussi, mais elle n'a pas respecté son assignation à résidence parce que dans le même temps, elle avait été placée en détention suite à une comparution immédiate au regard des éléments qui étaient retrouvés chez lui à la suite de la perquisition administrative. Quand je dis les éléments qui étaient retrouvés chez lui, c'était un pistolet à grenaille pour lequel, en temps normal, vous prendriez la 23e chambre à Paris en comparution immédiate, peut-être 2 ou 3 mois avec sursis. Mais là, vu qu'il y avait une note blanche, enfin, pas une note blanche, je vais être plus précis, une assignation à résidence et une perquisition administrative dans le dossier, les juges de la 23e ont dit il faut 6 mois mandat de dépôt en comparution immédiate, ce qui était rarissime. Donc voilà, cette personne, sur sa note blanche, sur son assignation à résidence et sa perquisition administrative, il était écrit que c'était quelqu'un de dangereux parce qu'il avait été condamné, il avait été incarcéré jusqu'en 2012 pour une infraction d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste dont nous avons déjà parlé aujourd'hui. Or, ce simple fait était purement et simplement erroné. Et j'en parle, à l'époque j'étais collaborateur chez Marie Dauzet, donc c'était un dossier à elle, et ce client, elle l'avait défendu depuis un certain nombre d'années. Et elle ne l'a jamais défendu sur une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Elle n'avait tout simplement jamais été condamnée pour cette infraction-là. Et on a pourtant, dans les 10 premiers jours de l'état d'urgence, ces 10-12 premiers jours qui selon l'administration, les ministères et tous ceux qui veulent nous dire que l'état d'urgence ça sert à quelque chose, on ne cesse de nous rappeler ces 12 jours qui ont permis, alors je ne sais plus c'est quoi le vocabulaire utilisé par ces personnes, des levées de doute. Voilà, c'est un mot de la novlangue contemporaine qui est très utilisé. On a dit, voilà, on fait les perquisitions administratives, ça permet la levée de doute, et ces 12 jours auraient été particulièrement efficaces. Et alors moi, ce que je vois avec ce dossier, c'est que dans ces 12 premiers jours, on a réussi dès le début à faire n'importe quoi, et je pense que cela aurait dû nous alerter pour la suite. Voilà. Donc j'ai été réveillé par l'état d'urgence le 21 novembre 2015, et dans une semaine, normalement, je devrais pouvoir me recoucher parce que ce sera fini. Donc, ce que j'ai appris après 2 années d'état d'urgence sur un certain nombre de dossiers, l'intitulé de la conférence, c'est « L'état d'urgence et la figure du suspect ». Donc j'ai eu le sentiment, alors je vais pas rentrer dans les... Je suis pas un professeur d'université, mais je vais essayer de théoriser un tout petit peu. Je pense qu'il y a effectivement, alors la question de l'autonomie, j'ai trouvé ça remarquable ce que vous avez dit Olivier tout à l'heure. Pour moi, il y a également l'émergence d'un régime autonome de droit administratif qui permet à l'administration, à la police, de prendre à l'égard des citoyens des mesures de contrainte et ou privatives de liberté indépendamment de la qualification pénale qui peut être donnée au comportement qu'on impute à la personne. Et on voit donc l'émergence d'une figure autonome du suspect en droit administratif. C'est ce que je pense avoir observé depuis 2 ans. Et cette figure autonome, elle n'allait pas de soi. Parce qu'on a une figure du suspect, un peu classique en droit pénal. Cette figure du suspect, elle existe, elle est bien connue. C'est celle qu'on va trouver, par exemple, dans les dispositions du code de procédure pénale relatives au contrôle d'identité, relatives à la garde à vue, relatives à l'audition libre, à la mise en examen, ou au placement sous le statut de témoin assisté. Voilà, tout un tas de régimes procéduraux qui permettent à la police ou à un juge d'instruction de prendre à votre égard, de dire « vous êtes suspect ». Il y a des raisons plausibles de penser que, ou il y a des indices graves et concordants permettant de penser que vous avez commis une infraction. Voilà, tout ça, ce sont des régimes, des figures du suspect qu'on connaît bien en droit pénal. Et cette figure-là, elle est intéressante parce que ce qu'on observe, c'est que tous ces régimes, que ce soit garde à vue, audition libre, mise en examen, etc., c'est toujours en lien avec une infraction. C'est-à-dire qu'il y a des raisons plausibles de penser que vous avez commis une infraction. Et l'infraction, ça a été dit, c'est le principe de l'égalité, c'est-à-dire un comportement qui est préalablement puni par la loi. Et c'est-à-dire que, voilà, c'est la théorie, les principes de la modernité aussi, de se dire les citoyens peuvent adapter leur comportement en fonction de ce qu'ils savent être punis ou autorisés par la loi. Et cette figure-là, du suspect en droit pénal, c'est une figure à laquelle... tous mes clients, et je pense les tiens aussi, enfin tous ceux qui ont eu des clients en lien victimes de l'état d'urgence, c'est une figure à laquelle ils s'identifient spontanément. Alors même que mes clients, nos clients qui sont victimes de l'état d'urgence et font l'objet de mesures en lien avec l'état d'urgence, ne font pas l'objet d'une sanction pénale, ne sont pas suspects au sens du droit pénal, mais ils s'identifient personnellement à cette figure-là. Et je pense qu'en ce sens-là, nos clients sont bien plus imprégnés des principes de la déclaration de 1789 et de la question de la présomption d'innocence, la question du principe de l'égalité. Je pense qu'ils comprennent bien mieux instinctivement ces principes-là que les magistrats administratifs ou le juge judiciaire également. J'y reviendrai. Donc on a cette figure du suspect en droit pénal et parallèlement depuis 2 ans, cette figure du suspect en droit administratif avec ces critères prévus par la loi relative à l'état d'urgence sur la question du comportement, des raisons plausibles de penser que la personne a un comportement qui constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publique. Et théoriquement, cette menace s'apprécie indépendamment de la qualification pénale qui peuvent être données à ces au comportement dont on parle à l'instant, ce qui pose de graves problèmes lorsqu'on plaide, et je pense que Vincent Margard a un peu abordé ce sujet, j'y reviendrai. Voilà, ce que j'ai observé au-delà de l'émergence de cette figure autonome du suspect en droit public, j'observe également un double mouvement. Un mouvement dans lequel, d'une part, il y a une expansion du pouvoir de l'administration et du juge administratif qui ont plus de pouvoir tout en arrivant à s'affranchir de la question de la qualification pénale. Et le deuxième mouvement qui fait écho à ce mouvement-là, c'est celui qui touche le juge judiciaire juge judiciaire qui se laisse contaminer par la logique administrative du soupçon et qui va donner quitus à la figure du suspect telle qu'elle est construite par l'administration en droit public. Voilà, donc finalement, deux parties qui ressemblent un peu à celle de Vincent Brungardt, hein, une première partie sur l'expansionnisme de la figure du suspect en droit administratif, et ensuite une deuxième partie sur la question de la démission du juge judiciaire. Alors je vais revenir un peu voilà, rapidement, alors évidemment en essayant de ne pas répéter ce qui a déjà été dit très brièvement avant moi, donc je vais essayer de prendre d'autres exemples, quelques-uns quand même qui me semblent un peu éclairants. Alors effectivement, Vincent Brungardt vous l'a dit, quand on fait l'objet d'une mesure de l'état d'urgence, on est requérant et ça ne va pas du tout de soi. Et quand on arrive au tribunal administratif, il faut bien voir que on va plaider avec quelqu'un, on plaide en premier, comme l'a dit Vincent, mais encore une fois, nos clients sont, ils arrivent au tribunal et ils ne comprennent pas. Pour eux, le commissaire du gouvernement, c'est un procureur de la République. Pour eux, l'assignation à résidence, c'est une privation de liberté, pas une restriction de liberté. Pour eux, les notes blanches, c'est des preuves. Et ils pensent que les preuves, comme en droit pénal, eh ben, on peut les discuter, on peut demander sur quoi ça se fonde, etc. Alors qu'on vient de vous le dire, il y a un gros problème, une très grande difficulté pour accéder aux preuves sur lesquelles on se fonde. Il y a aussi ce principe selon lequel la présomption d'innocence doit pouvoir être invoquée. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans le juge administratif et nos clients nous disent « Ah, mais ils n'arrivent pas à prouver, donc je suis présumé innocent. » Enfin, voilà. Et enfin, la contrainte est vécue comme une peine et une sanction. Et ça, moi, ça me semble extrêmement important de se placer du point de vue des personnes qui en sont victimes. C'est-à-dire que, théoriquement, si une assignation à résidence était en droit, si c'était une sanction, si c'était clairement une sanction pénale, eh ben, on devrait appliquer les principes de la déclaration de 89 sur, par exemple, le principe de l'égalité, ce genre de choses. Mais malheureusement, c'est ce qui ressort du vécu des citoyens, mais qui n'est pas, évidemment, reconnu par le juge administratif. Alors, quelques exemples sur ce que j'ai pu voir en termes de, d'abus, pas d'abus, parce que c'est pas des abus, c'est dans la nature même de l'état d'urgence, mais alors, une semaine après, 10 jours après le déclenchement de l'état d'urgence, il y a une perquisition administrative dans un squat écolo au Pré Saint-Gervais, qui a été justifiée au nom du fait que les écologistes qui habitaient dans cet endroit menaient, alors ça a été dit un peu tout à l'heure, des réunions conspiratives, et que c'était la raison pour laquelle ils étaient dangereux et qu'il fallait aller les perquisitionner. Alors là, pour le coup, j'ai eu la chance de pouvoir faire une défense à domicile, parce que je me suis déplacé dans les squats occupés par ces personnes-là, et c'est toujours assez, assez intéressant. Ce qui est intéressant avec cette affaire, c'est que alors que la France vient de vivre des attentats terroristes d'une ampleur inégalée, le préfet, en l'occurrence de la Seine-Saint-Denis, décide, soi-disant pour lutter contre le terrorisme, d'aller perquisitionner un squat qui n'a strictement rien à voir avec le terrorisme et déploie des moyens extrêmement considérables en termes de moyens purement logistiques. C'est-à-dire qu'il y avait 5 ou 6 compagnies de gendarmerie, de CRS, qui débarquent dans ce squat au Pré-Saint-Gervais, qui, faut-il le rappeler, avait signé une convention d'occupation avec le propriétaire des lieux, convention d'occupation qui avait été homologuée par un juge du tribunal d'instance au cours d'une audience publique. C'est-à-dire que moi j'ai un préfet qui se fonde sur une note blanche, laquelle note blanche dit que mes occupants sont occupants sans droit ni titre. Je veux dire, moi je commence à m'inquiéter en tant que citoyen, parce que si ceux qui sont censés nous protéger sont des policiers, des renseignements qui sont incapables d'avoir l'information, qui pourtant a été prononcée dans une audience publique, que mes clients sont occupants, alors sans droit ni titre, certes, ils n'ont pas un titre de propriété ou d'occupation, mais ils ont signé une convention d'occupation précaire avec le propriétaire en attendant qu'il quitte les lieux volontairement à une date fixée et validée par un juge. Voilà, si des policiers des renseignements ne sont pas capables de savoir ça, moi je m'inquiète sur la confiance qu'on leur accorde et pour nous protéger. Cette affaire a fait l'objet d'un recours au tribunal administratif de Montreuil, que nous avons perdu, puis d'un appel à la Cour administrative de Versailles, que nous avons gagné sur le défaut de motivation, et le ministère de l'Intérieur a fait un pourvoi en cassation, il faut y aller quand même, hein, contre l'arrêt de la Cour de Versailles qui disait que son arrêté, d'il y a maintenant 2 ans, était insuffisamment motivé. Voilà, c'est toujours en cours, on en saura plus dans les mois qui viennent. Je vais parler aussi de la question des interdictions de manifester, qui a déjà été abordée un peu aujourd'hui, mais qui est intéressante, je pense, parce qu'elle fait très clairement écho à ce que nous a dit Sylvie Thénault ce matin sur les usages qui pouvaient être faits d'une loi au-delà de ce qui avait pu être pensé par ses concepteurs. Et c'est vrai que là, le fait d'utiliser l'article de la loi sur l'état d'urgence qui prévoit la possibilité pour le préfet d'interdire à une personne de séjourner dans un lieu donné parce que elle aurait l'intention d'entraver l'action des pouvoirs publics, utiliser cet article-là pour interdire à quelqu'un de manifester, c'est quelque chose qui n'allait pas du tout de soi. Hein. Enfin voilà, il a fallu quand même pour que au printemps 2016, les services de la préfecture de police de Paris en lien avec le ministère de l'Intérieur, je ne sais pas, décident d'utiliser cet article pour interdire individuellement à des gens de se rendre à des manifestations, il a fallu faire preuve d'une sacrée dose d'imagination juridique. Voilà. En tout cas, ils l'ont fait. Très rapidement, on a eu une dizaine de dossiers qui, encore une fois, nous ont empêchés de dormir parce qu'il fallait faire des référés liberté dans l'urgence. Et on s'est retrouvé une audience mémorable au tribunal administratif de Paris où on a, avec ma consoeur Ainhoa Pasquale, plaidé donc 10 dossiers d'interdiction de manifester devant le juge du référé liberté le jour même où devait avoir lieu la manifestation à laquelle nos clients étaient interdits de participer. Donc quelques heures avant, il fallait évidemment, s'ils voulaient y aller, pouvoir obtenir très rapidement une décision. Et l'enjeu était un peu le même que ce que vous a raconté Vincent Bringart, peut-être en plus rapide et avec moins de détails, et parce qu'il fallait aller plus vite et que la manifestation avait lieu très rapidement. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on a dit que le préfet n'arrivait pas à démontrer que nos clients, par exemple, avaient pu être violents dans des manifestations, pour la simple et bonne raison qu'ils n'avaient jamais fait l'objet de condamnations pénales. Et la juge a reporté la clôture de l'instruction à quelques heures après l'audience pour demander au préfet de produire des éléments qui viendraient étayer ces assertions et le fait que nos clients auraient été dangereux au cours de manifestations. Le préfet n'a jamais rien produit. Donc la juge administrative a suspendu 9 arrêtés sur 10. Alors c'était vraiment des décisions intéressantes. Déjà parce qu'on a gagné, ça fait toujours plaisir. Mais c'est intéressant aussi parce que, voilà, on avait, à mon sens, pour la première fois, et à mon avis, c'est même très rare, un juge administratif qui, dans le cadre de l'état d'urgence, décide de nous donner raison parce que l'administration n'est pas capable d'apporter la preuve de quelque chose. Donc finalement, il y avait presque un renversement de cette idée de présomption. C'est-à-dire que, pour revenir un peu sur ce qu'a dit Vincent Bringart juste avant, je trouvais ça très intéressant, j'en profite, mais je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que tu as dit, notamment sur la confiance que tu accordes au Conseil d'État. Mais ça c'est une chose. Mais surtout, je suis pas là, je pense que le Conseil d'État a dit très clairement que les notes blanches, il y a une présomption de véracité. Et ça, il l'a dit. Et moi, ce que j'ai vu finalement au tribunal administratif de Paris, finalement, le juge dit non, mais alors, si le préfet n'est pas capable d'apporter la preuve de ce qu'il avance dans sa note blanche, et bien dans ce cas-là, je ne peux pas croire ce qui est écrit dans la note blanche. Mais pour moi, ça, c'est une position qui est isolée et qui ne s'est jamais reproduite. Il faut bien voir que par la suite, on a plaidé un certain nombre de dossiers à Paris, à Rennes, à Montreuil sur ces questions des interdictions de séjour devenues interdictions de manifester. Et nous, ce qu'on soutenait, un des arguments fondamentaux qu'on soutenait, c'était de dire que cet article de la loi sur l'état d'urgence ne permet pas au préfet d'interdire à quelqu'un de manifester. On n'allait pas dire, on allait dire à titre subsidiaire que dossier par dossier, par exemple dans tel cas, mon client là il n'est pas violent, ou mon client voilà, il a été relaxé par le tribunal, donc il ne faut pas l'interdire de manifester. Ce qu'on voulait, c'était une décision de principe que de la part de la justice qui vienne dire non, vous n'avez pas le droit d'utiliser cet article pour interdire à quelqu'un de manifester. Et malheureusement, ça n'a jamais été le cas, et la justice a validé cet usage sur le plan du principe de cet article pour interdire à quelqu'un de manifester. C'est extrêmement regrettable, c'est-à-dire que l'administration est passée en force à imposer l'imagination dont elle avait fait preuve en utilisant cet article, et finalement la justice administrative l'a validé sur le principe. Alors, on a été aussi devant le Conseil constitutionnel sur cette question. J'étais très heureux le jour où le Conseil constitutionnel a fait droit à la question prioritaire de constitutionnalité qu'on a déposée contre cet article. J'étais très heureux, évidemment, parce que l'article en question a été déclaré contraire à la Constitution. Mais c'est un bonheur d'assez courte durée. Comme souvent dans ce métier, en fait. parce que, comme vous le savez probablement, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter les effets dans le temps de sa décision. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai des dizaines de clients qui ont été interdits de manifester sur la base d'un texte dont je sais qu'il est contraire à la Constitution. Et j'ai même eu des audiences après cette, des audiences au tribunal administratif après cette décision du Conseil constitutionnel, où les tribunaux administratifs n'en avaient strictement rien à voir. Enfin voilà, c'était circulé, il n'y a rien à voir, on se pose uniquement la question de savoir si votre client est, est violent ou pas. Voilà, donc c'est extrêmement décevant. Alors, ce qu'on peut observer aussi sur ces audiences, dans ce lien, ça me permettra de faire une transition avec la question de la démission du juge judiciaire, mais sur le lien entre la question de l'infraction pénale et la question du comportement suspect aux yeux de l'administration. Très souvent, on s'est retrouvé, je pense que Vincent vous l'a dit un peu d'une certaine manière, à invoquer devant le juge administratif l'article 40 du Code de procédure pénale. Cet article, c'est l'article qui fait obligation à tout fonctionnaire ou à toute autorité de transmettre au procureur de la République les informations qu'il aurait à l'égard d'un délit ou d'un crime qui aurait été commis. Ce qui veut dire que lorsque vous avez une personne, par exemple, qui fait l'objet d'une assignation à résidence parce que les services de renseignement disent qu'il a tenu des propos favorables à Daesh sur un site internet comme Facebook, en public, et bien ces faits-là, techniquement, ça devrait être de l'infraction pénale d'apologie du terrorisme. Comme Vincent vous l'a dit, il y a des faits où on dira « Ah ben vous reprochez à mon client d'avoir fait ça. Ah ouais. C'est une association de malfaiteurs terroristes. Mais alors nous, on invoque cet article avec un succès, sans succès en fait. C'est-à-dire qu'en gros, nous ce qu'on dit c'est « Vous reprochez à mon client d'avoir commis quelque chose que je sais, que nous savons tous être une infraction pénale. » Or, il n'a jamais été déféré devant la justice, donc je pense que mon client n'a pas fait ce que vous lui reprochez d'avoir fait. Voilà. Et ça, c'est un argument qui, pour moi, aurait dû convaincre le juge administratif d'avoir une plus grande méfiance à l'égard de nos planches. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, il me reste 3 minutes. Je vais essayer de finir parce que j'ai toute une deuxième partie sur la question du juge judiciaire. Non, mais alors. Bon, alors, je vais peut-être aller très rapidement. Sur cette question de des infractions pénalo-administratives dont on a déjà parlé, qui est que se passe-t-il quand vous ne respectez pas une assignation à résidence prise au nom de l'état d'urgence. Donc pour conclure, je vais vous raconter mon audience d'hier, comme ça sera plus simple. Je vais me faire lire mes notes et de reprendre mon plan. Donc hier, je pars en comparution immédiate à Bobigny pour défendre quelqu'un qui, pour la deuxième fois, a violé son assignation à résidence. Donc il est assigné à résidence depuis un peu moins d'un an. Ça a été renouvelé à chaque renouvellement de l'état d'urgence. Et il a déjà été condamné il y a 2 mois pour l'avoir violé, pour n'avoir pas respecté l'horaire. Et il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Et là, hier, il se fait de nouveau attraper en dehors de son lieu d'assignation à résidence pour la simple et bonne raison qu'il allait travailler. Parce qu'il devait nourrir ses enfants, parce qu'il n'arrivait pas suffisamment à gagner d'argent en restant dans la commune où il était assigné à résidence. Alors ça me fait penser à ce que nous a dit Sylvie Thénault ce matin, voilà, sur la question de l'article 6 de la loi sur l'état d'urgence, comme on le sait, prévoit l'obligation pour l'État d'assurer la subsistance des familles. Et malheureusement, cette obligation n'est pas respectée. C'est-à-dire qu'on assigne à résidence des gens, mais on les empêche de mener leur vie normale, c'est-à-dire de travailler, de pouvoir subvenir à leurs besoins, à ceux de leur famille, mais en retour, on ne respecte pas l'obligation de l'État à leur égard, alors même qu'elle est prévue par la loi. Donc bref, cette personne se retrouve en garde à vue, elle est déférée dans le cadre d'une comparution immédiate. Déjà, ça pose un vrai problème, c'est-à-dire que, encore une fois, il faut le dire, mais la comparution immédiate, on a parlé toute la journée des régimes d'exception et des régimes dérogatoires. Alors là, je m'écarte un peu du sujet, mais la comparution immédiate est un régime dérogatoire. C'est un mode de poursuite exceptionnel, qui ne doit pas être naturel et qui ne doit pas s'imposer de soi-même. Donc moi, ce que je fais, évidemment, à cette audience, c'est que ça va très très vite, les comparutions immédiates. Je prends l'arrêt dont a parlé Vincent, là, l'arrêt du 3 mai 2017, je prends l'article dont il parle, l'article 111-5, je rédige sur un bout de papier des conclusions demandant au président, au tribunal, de considérer que l'arrêté d'assignation à résidence sur lequel se fonde, qu'on reproche à mon client d'avoir violé, est illégal. C'est ce qu'on vient de vous expliquer, qui s'appelle l'exception d'illégalité. Et cet arrêt de 2017 dont Vincent n'a pas eu le temps de vous parler, il est extrêmement intéressant parce qu'il rappelle l'obligation du parquet de demander à l'administration les preuves utilisées par l'administration pour assigner quelqu'un à résidence. Donc c'est assez intéressant. Mais donc moi je dépose ces conclusions et là on me dit, après quelques temps de réflexion, la présidente me dit « Ah mais non maître, je vais être obligé de renvoyer ». Et la procureure aussi. Et je dis, moi, j'étais pas d'accord avec ça, évidemment, parce que renvoyer, ça veut dire détention provisoire. Enfin, il y a beaucoup de chance. J'étais prêt à plaider le jour même et à ce que mes conclusions soient examinées. Et la présidente me dit, ah non, mais c'est l'état d'urgence, on connaît pas. Voilà, on sait pas ce que c'est juridiquement complexe, on sait pas. Et la procureure, elle dit exactement la même chose, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, moi, je me retrouve quand même avec un parquet qui décide de renvoyer avec une procédure d'exception de comparution immédiate la violation d'un texte dont ils ne savent même pas comment il fonctionne. Donc moi, ça me pose une vraie difficulté, comme disent les avocats. Je sais, j'ai 3 minutes encore. Je n'ai pas d'autres papiers qui me montrent. Donc ce monsieur, finalement, on ne va plaider que sur la question de sa détention provisoire ou pas. Et évidemment, il va en détention provisoire au motif qu'il y a un risque de récidive. Pourtant, je vais le rappeler que l'état d'urgence, il s'est terminé la semaine prochaine et qu'à partir de la semaine prochaine, il n'y a plus d'assignation à résidence. Et donc, à partir de la semaine prochaine, il ne risque plus de récidiver. Voilà.
Mais il sera peut-être assigné à commune.
Voilà, c'est ça, il sera peut-être assigné à commune. Voilà, donc il est en détention provisoire en attendant son procès. Mais voilà, écoutez, c'est ma conclusion. Merci.